bonjour pour Yamir Chaïs.
Bonjour.
Un droit du sol qui ne serait plus automatique, l'idée est signée Nicolas Sarkozy hier dans Valeurs Actuelles. L'ex-président qui plaide pour la création d'une présomption de nationalité. Être français pour Yamir Chaïs, est-ce que ça se mérite?
Non, mais Nicolas Sarkozy est assez médiocre. D'abord parce qu'il devrait savoir que ce n'est pas automatique le droit du sol. Lorsque vous êtes né de parents étrangers, vous devez faire vous-même la demande, soit vos parents avant 16 ans, entre 13 et 16 ans, soit vous-même entre 16 ans et 18 ans. Et par ailleurs, vous avez des conditions à avoir vécu au moins 5 ans en France à partir de l'âge de 11 ans. Bref, les conditionnalités existent. Mais il est médiocre surtout Nicolas Sarkozy parce que il n'arrête pas d'attiser les conflits, d'appuyer sur des douleurs que veulent entretenir justement nos adversaires, les adversaires de la République. Et je lui conseille de prolonger ses vacances plutôt que d'exciter comme ça à chaque fois un sentiment de rejet au sein même de la communauté nationale de ceux qui seraient supposés suspects en toute chose. En particulier les Maghrébins ou ceux supposés de confession musulmane. Je trouve ça assez médiocre et je vais vous dire assez infâme, y compris de la part d'un ancien président de la République qui aspire à l'être de nouveau, j'espère que ce ne sera pas le cas, de ne pas se préoccuper plus avant des grands enjeux démocratiques de notre pays, des grands enjeux écologiques auxquels nous sommes confrontés, des possibilités que nous offrent les sciences, les connaissances, les techniques pour essayer de construire une société plus juste et meilleure. Parce que c'est ça la politique, pardon de le dire avec des mots un peu naïfs, mais c'est sûrement pas de passer son temps en roulant des épaules à exciter les gens, les instincts les plus vils, les plus bas, qui consistent à pointer du doigt ceux qui, comme depuis toujours pour les discours officiels, c'est-à-dire les barbares, entre guillemets, les barbares de l'intérieur, font peur. Donc c'est pas avec ce genre de discours qu'on reconstruit une France abîmée, qui doute, qui a parfois peur et qui a pourtant plein de possibilités pour s'en sortir.
Et en critiquant le gouvernement, comment est-ce que vous, qui avez refusé, on le rappelle, de voter l'état d'urgence, comment est-ce que vous jugez la réponse du gouvernement face à la menace terroriste?
Je pense que le gouvernement est, comme tout gouvernement, confronté à une difficulté lourde, parce que ce n'est pas facile de gouverner par des temps sanglants, mais il est pris de panique. Donc, il accumule les lois sécuritaires, les postures sécuritaires, parfois les incantations, le verbe, les mots, pour donner le sentiment d'une autorité.
Est-ce qu'il a sous-estimé, le gouvernement, cette menace terroriste?
Non, je pense pas qu'on puisse faire porter au gouvernement des attentats. Je dis juste que le gouvernement apporte les mauvaises réponses, manifestement. Vous pourrez mettre autant de policiers que vous voulez dans la rue, à part les épuiser, vous n'empêcherez jamais un dingue d'aller tirer sur une foule. Tout ça, par ailleurs, se faisant au prix d'entorses sérieuses à notre droit et à nos libertés. J'ajoute par ailleurs que c'est le plus important, que là où le gouvernement est aveugle et fait des fautes politiques lourdes, c'est que il considère que la seule réponse globale à apporter, en tout cas c'est le discours et les faits qu'il met en œuvre, c'est d'un côté larguer des bombes là-bas et de l'autre côté contrôler toute une série de nos compatriotes ici. Mais c'est pauvre, c'est anxiogène, c'est sans résultat. Ça ne fait que nourrir des haines et accumuler des rancœurs aux rancœurs. Car la vérité, lorsque nous avons décidé de rejoindre la coalition américaine en Irak, puis lorsque nous avons décidé, sans autorisation de l'ONU, d'aller frapper en Syrie, nous savions les conséquences de ce type de choses. Quand moi-même j'ai dit, chez vos confrères de Libération, attention, nous aurons des répliques suite à l'assassinat de M. Gourdel en Algérie, il y aura d'autres attentats. On m'a dit « tu es irresponsable de le dire ». Mais c'était une évidence à partir du moment où nous rentrons directement en conflit avec une force militarisée, obscurantiste, qui fait régner ses idées par la violence. Donc je pense que nous avons tout faux en la matière et qu'il vaut mieux écouter, comme le font certains pays, lorsque nous avons des enjeux aussi lourds, ceux qui connaissent l'Orient compliqué, ceux qui connaissent exactement les enjeux géopolitiques qui se passent là-bas. Et enfin, chez nous, en France, on serait peut-être plus avisé de s'intéresser à ce qu'il se passe lorsque des Français décrochent totalement et passent de l'autre côté, c'est-à-dire dans la violence. Et il ne s'agit pas simplement de mettre en exergue l'islam ou sa désorganisation. Je vous donne un exemple. On vient de dire, comme réponse à la lutte contre le terrorisme, il faudrait réorganiser l'islam. Énième débat sur l'islam de France. Mais vous connaissez quand même le point commun, il n'y en a pas beaucoup, entre tous les assassins et tous les terroristes. C'est qu'il n'y a aucune religiosité chez eux. Ils n'allaient pas régulièrement à la mosquée, ils priaient pas, ils étaient même pour la plupart absolument pas pratiquants. Donc on est à côté de nos pompes. Et à partir du moment où on se contente encore une fois de postures sécuritaires, de postures y compris qui n'ont que les mots parfois pour donner le sentiment qu'on maîtrise une situation, en vérité la situation vous échappe. Je pense, pour finir sur ce point, qu'un gouvernement gagnerait en hauteur de vue à proposer à tout le pays un débat national apaisé sur les enjeux géopolitiques au Moyen-Orient et sur ce qui se passe chez nous. Je vous dis pourquoi la chose. Lorsque l'on dit aux Français, voilà, il faut lutter contre le terrorisme parce qu'on nous a attaqués. Je viens de vous rappeler que nous avons aussi attaqué, et parfois les premiers. Lorsque l'on dit, il faut attaquer Daesh parce que Daesh, c'est le mal, il décapite. Alors arrêtons de vendre des armes à l'Arabie Saoudite qui décapite aussi, et en direct à la télévision, etc., etc. Je pense qu'on serait bien avisé, encore une fois, tout simplement, de s'adresser à l'intelligence de nos compatriotes pour leur dire les choses et pour prendre des décisions compliquées ensuite, plutôt que... Dès que le sang est encore chaud, et alors que le sang est encore chaud, décider qu'on va bombarder ici, mettre l'état d'urgence là, et d'une certaine façon, gouverner par la peur.
Parlons un peu de politique intérieure. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, les socialistes ne tiendront pas d'université d'été. C'est une rentrée en ordre dispersé qui risque peut-être de faire le jeu de la droite, voire de l'extrême droite.
C'est l'affaire du Parti Socialiste. Vous avez rappelé que je l'ai quitté, je n'ai pas de commentaires à faire. C'est vraiment leur affaire, c'est pas du tout la mienne. J'avais de toute façon déjà gagné moi un week-end de libre, donc ça ne me concerne pas du tout.
Et en perspective de cette présidentielle, comment est-ce que vous comptez vous positionner? Est-ce que qui vous soutiendrait? Vous êtes plus proche d'un Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui que d'un François Hollande?
Bah, il dit pas des choses inintéressantes, Jean-Luc Mélenchon, mais le problème, ce n'est pas les candidats, ce ne sont pas les candidats. C'est d'abord un système qui est une machine à trahir. Bien sûr que c'est important la présidentielle. 40 millions d'électeurs sont convoqués. C'est pas un rendez-vous électoral neutre. Mais à la vérité, vous avez là une imposture généralisée avec pour des concurrents la plupart des imposteurs qui vont vous expliquer toute une série de choses, des promesses, etc. qui ne tiendront pas de toute façon. C'est le jeu depuis trois mandats, trois quinquennats.
Il va bien falloir voter quand même à un moment.
Très certainement. Mais moi, je pense qu'il faut aussi attirer, tant qu'il est encore temps, parce qu'après, la machine médiatique va s'emballer, l'attention de nos compatriotes, et j'en profite sur cette antenne, sur ce qui se joue avec la présidentielle. Je ne crois pas que la prochaine personne élue présidente de la République réglera l'essentiel de la crise démocratique. Et pourtant, nous avons des enjeux lourds qu'il faudrait mettre sur la table. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de l'enjeu terroriste ou de l'enjeu de l'identité nationale que, à tour de rôle, tantôt M. Valls, tantôt M. Sarkozy mettent sur le devant de la scène. On serait bien avisé, au contraire, de faire de l'enjeu présidentiel d'abord un enjeu collectif. Quel pays nous voulons? C'est-à-dire, est-ce que nous voulons, demain, une république métissée qui s'assume? Est-ce que nous voulons, demain, des sciences, des technologies, des pratiques artistiques ouvertes à tout le monde? Est-ce que nous voulons, sur les 10 à 15 ans qui viennent, construire de nouvelles alliances internationales, avec des démocraties, parce que c'est pas toujours le cas, mais aussi avec des pays francophones? Et comment on construit comme ça un nouvel imaginaire national? Ça, c'est un débat passionnant. S'il s'agit de dire, et de choisir entre quelques impétrants qui, de toute façon, soit, objectivement, sont... des imposteurs, soit sont, quand bien même ils sont de bonne volonté, incapables, parce qu'à la vérité les enjeux sont trop lourds pour eux et pour leurs petites épaules, à ce stade, parce qu'ils ne s'appuient pas sur le peuple et sur les citoyens. Cette question-là, pour l'instant, je la mets de côté et je vous y répondrai lorsque ça se posera au moment du vote lui-même.